4 évasions en 10 jours d'hôpitaux psychiatriques toulousains. Ces 4 personnes considérées comme malades ont été arrêtées, soit pour avoir commis des meurtres ou des viols, mais jugées irresponsables. De quoi faire froid dans le dos quand on pense, par exemple, aux cannibales des Pyrénées. Alors comment ces évasions sont-elles possibles? Certains criminels pourraient-ils utiliser ce système pour quitter leur prison et tenter de s'enfuir? Les explications, le décryptage dans un instant avec nos invités, mais d'abord les tout derniers éléments avec Marine Scherrer.
Cet homme qui marche tranquillement dans les rues de Toulouse le 19 janvier au soir n'est pas un passant comme les autres. Il s'agit de Jérémy Rimbaud, surnommé le cannibale des Pyrénées. Plus tôt dans la journée, l'hôpital psychiatrique Marchand à Toulouse avait signalé sa fuite. L'ancien militaire de 34 ans est soupçonné d'avoir, en 2013, tué un agriculteur de 90 ans avant de manger son cœur et sa langue. Durant sa fugue dans Toulouse, l'homme agresse violemment cette femme de 72 ans.
Il me regardait de façon bizarre et tapait. Donc là, j'ai compris qu'il voulait me tuer.
Jérémy Rimbaud est finalement interpellé. Mais à peine 4 jours plus tard, un autre patient s'enfuit du même hôpital de Toulouse. Un homme de 47 ans, interné après un meurtre en 2010. Cette fois encore, le pire est évité. Il est retrouvé quelques heures plus tard, sans avoir fait de victime. Une série noire, à peine croyable, qui pourtant ne s'arrête pas là. Jeudi et vendredi, deux patients de psychiatrie se sont eux aussi enfuis. Le premier, d'une unité sécurisée du CHU de Toulouse, qu'il a rapidement réintégré après avoir été retrouvé. Le second, connu pour des faits de viol, s'est échappé de l'hôpital Marchand. C'est la 4e fugue de patients à Toulouse en l'espace de 10 jours.
Et évidemment, ces fugues à répétition posent beaucoup de questions. On va essayer de vous apporter des réponses dans l'affaire suivante avec nos différents invités. Pauline Salingue, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire du CHSCT de l'hôpital Purpan de Toulouse. Une fugue a eu lieu cette semaine depuis votre hôpital. Vous êtes membre de la CGT également. Guillaume Fard, consultant sécurité BFM TV, est avec nous. Bonjour. Avec nous également Nicolas Franck, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre et chef du pôle au centre hospitalier Le Vinatier à Bron. Pauline Salingue, évidemment, on a envie de commencer avec vous parce que je pense que dans votre entourage, vos amis, vos familles, comme nous, tout le monde s'est interrogé. Comment peut-on sortir aussi facilement d'un hôpital psychiatrique, tout simplement parce qu'il faut peut-être rappeler comment ça fonctionne et pourquoi c'est possible.
Alors, un hôpital psychiatrique, avant tout, c'est pas une prison. Voilà, c'est pas des prisonniers, c'est des patients dont on s'occupe au quotidien, des patients qu'on traite parce qu'ils sont malades. Voilà. Donc nous, on est des soignants, on n'est pas des gardiens de prison. Donc on entend parler d'évasion, mais il faut savoir quand même que c'est aussi des patients qui peuvent avoir des permissions et encore heureux parce que l'enfermement, c'est en dernière instance qu'on y arrive. C'est pour protéger ses patients également de ce qu'ils pourraient commettre contre eux-mêmes. Voilà, parce que les passages à l'acte, ils sont avant tout le plus fréquemment auto-agressifs. Donc c'est vrai qu'on en parle. Nous, ce qui nous embête au sein de l'hôpital, c'est qu'on parle de ces fugues, mais qu'on ne parle pas de la psychiatrie en général et surtout du manque de moyens en psychiatrie. Il faut savoir que la psychiatrie, c'est le parent pauvre de l'hôpital qui est déjà pourtant dans un sale état. Le nombre de lits a été divisé par 2 en 40 ans en psychiatrie. Et donc, oui, il y a des fugues, mais il y a surtout des patients qui sont à l'extérieur parce qu'ils ne peuvent pas être pris en charge.
Ce qui nous... Pardon.
Pardon, mais comment est-ce qu'on vit? Comment est-ce que les patients vivent à l'hôpital? Ce sont des gens qui viennent le matin, qui sont soignés, qui repartent chez eux. Est-ce qu'il y en a qui dorment là-bas? Comment ça se passe? Vous en avez combien? Vous êtes combien en personnel? Comment ça se passe?
Bah alors, ça dépend. Il y a des unités de...
Chez vous.
Moi, je travaille en pédopsychiatrie. Ouais. Donc moi, dans mon service, c'est des adolescents qui sont hospitalisés à temps plein. Et pour illustrer le manque de moyens, bah, nous, justement, il y a 2 semaines, on nous a supprimé 3 équivalents temps plein à l'occasion de l'ouverture d'un nouveau service. Donc, comment ça se passe? Nous, on est au moins 4 en permanence. Enfin, on doit être 4 en permanence. Et par exemple, quand on nous enlève 3 postes, on doit rappeler les collègues qui sont en congé, les collègues qui sont en repos pour venir travailler. C'est ça la situation à l'hôpital de manière générale et c'est ça la situation également en psychiatrie. Il ne s'agit pas de dire que si ces patients ont fugué, c'est parce qu'à la santé, il n'y avait pas assez de monde. Mais ce qui est intéressant à réfléchir, c'est que pour qu'il n'y ait pas de passage à l'acte, il faut du personnel pour prendre le
Bien
temps
sûr.
Avec les patients.
Je voudrais qu'on essaye de comprendre autre chose. Évidemment, on peut-être rappeler une chose assez basique, Guillaume, mais pour des gens qui ont un passé... tels que ceux dont on parle là, hein, les 4 là, viol, meurtre, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de personnes pour les surveiller spécifiquement quand ils arrivent pour être traités dans ces hôpitaux.
En fait, je pense qu'il faut, d'abord peut-être poser quelques chiffres pour que les téléspectateurs comprennent bien. Il y a 70 000 détenus en France. L'Observatoire des prisons nous dit que 80% d'entre 80% souffrent de troubles qui sont des troubles psychiatriques. Ça veut dire 4 sur 5 quand même. Hein. Et 25% d'entre eux souffrent de troubles psychiatriques sévères, c'est-à-dire de psychose ou de schizophrénie. C'est-à-dire 1 sur 4. Alors si on fait un ratio 25% de 70 000, ça fait quand même 18 000 détenus qui sont dans cette situation-là. Alors comment les traiter ? Alors il y a un peu de psychiatrie ambulatoire dans les prisons, c'est-à-dire que occasionnellement on peut voir un médecin psychiatre. C'est évidemment pas suffisant. Il existe aussi des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire. C'est aussi une possibilité, mais ça représente un tout petit peu plus de 400 lits en France. Vous vous rendez compte ? C'est relativement faible. Et ensuite, on a les unités pour malades difficiles, les fameuses UMD. Voilà, il y en a 10 en France, seulement 10. Ça représente un petit peu plus de 500 lits. Et là, on n'est pas en prison quand on est en UMD, on est sous la responsabilité du ministère de la Santé et donc on n'est pas surveillé par des agents de l'administration pénitentiaire. Enfin, quand on a des détenus dont l'état est absolument incompatible avec la détention, parce que psychiatriquement, ils sont beaucoup trop atteints. Vous les mettez où ? Quand il n'y a pas de place en UMD, quand il n'y a pas de place dans des unités psychiatriques rattachées à des établissements pénitentiaires ? Bah souvent, dans des établissements de psychiatrie ordinaire. Et ces établissements de psychiatrie ordinaire, ils manquent de moyens, madame l'a dit, et ils n'ont pas toujours les structures adaptées pour traiter des détenus qui restent dangereux pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres.
Nicolas Franck, vous nous écoutez, vous connaissez ces questions parfaitement. Je rappelle que vous êtes psychiatre et chef du pôle au centre hospitalier le Vinatier à Bron. Est-ce que ça veut dire que des malades qui ont commis des meurtres, qui ont commis des viols, se retrouvent dans les hôpitaux avec des patients beaucoup moins graves ou en tout cas avec des pathologies qui sont moins dangereuses pour les autres et qu'on n'a pas moyen de faire autrement ?
Bien sûr qu'on a moyen de faire autrement. Enfin, d'abord, je voudrais réagir sur ce qui a été dit par rapport au terme évasion. Effectivement, je souscris à ce qui a été dit par rapport au fait que les hôpitaux psychiatriques ou les unités d'hospitalisation en psychiatrie ne sont pas des lieux de privation de liberté, mais des lieux de soins. La plupart des personnes qui ont un diagnostic de schizophrénie, de troubles bipolaires ou d'autres troubles psychiatriques ne sont pas des personnes dangereuses. Ce sont des personnes qu'on accompagne vers leur établissement et ce sont des personnes qui, dans la grande majeure partie des cas, n'ont pas besoin d'hospitalisation. Je ne souscris pas au fait que l'on manque de lits. Je pense que l'on peut traiter les gens aussi bien sur les murs de l'hôpital. En revanche, une fois qu'ils sont à l'hôpital, il faut pouvoir s'en occuper correctement en les associant à la construction de leur projet de soins. Et au milieu de tous ces patients qu'on accompagne vers leur établissement, il y a quelques personnes dangereuses qui n'ont, à mon avis, rien à faire là, qu'il faudrait placer dans des unités spécifiques qui sont à créer.
Est-ce que ça veut dire que le cœur du problème, il est là aujourd'hui, ces personnes n'auraient pas dû se trouver dans un hôpital psychiatrique classique ?
Le cœur du problème est là. Le cœur du problème, c'est aussi l'expertise et la déresponsabilisation qui, parfois, est posée de manière un petit peu trop inappropriée, me semble-t-il. Déresponsabiliser quelqu'un qui a commis un acte du fait de ses troubles de manière aiguë, oui, mais quelqu'un qui est dangereux en permanence, à mon avis, non, il ne faut pas le faire. Il y a un problème d'expertise en France.
Et Guillaume, si on se pose toutes ces questions, parce qu'évidemment, et on va revenir sur tout le contexte, mais... c'est qu'on a passé à côté d'événements qui auraient pu être dramatiques. Oui. Le cannibale des Pyrénées s'en est pris à une vieille dame. L'homme d'hier a réussi à faire 600 km. Oui. Il aurait pu, là aussi, commettre des drames.
Absolument, parce que d'abord, nous, on n'a pas connaissance ici de l'état de stabilité des personnes qui parviennent à fuguer de ces établissements. Alors, vous citiez le cannibale des Pyrénées, il s'en est pris à une septuagénaire, ça a été dit dans le reportage. L'individu qui a été arrêté hier dans le 9e arrondissement de Paris, bah, lui, quand même, il avait réussi à traverser la moitié de la France. On pensait initialement qu'il irait peut-être vers La Rochelle, en tout cas, c'était son dessein. Il n'a pas fait cela. Il a quand même réussi à traverser la France. Il aurait pu, effectivement, du fait d'une instabilité potentielle, s'en prendre à des personnes. Se pose donc la question de la surveillance de ces établissements. En fait, il y a même deux questions. D'abord, sont-ils vraiment adaptés ? Parce que quand on va dans une unité psychiatrique ordinaire, en tant que détenu, parfois détenu dangereux, détenu malade, est-ce que c'est véritablement là que l'on devrait être ? Au regard justement de la dangerosité. Parce que les établissements pénitentiaires n'ont de toute façon pas les moyens pour traiter l'intégralité des détenus psychiatriques, et il y en a un certain nombre, plusieurs milliers, je vous ai donné les chiffres. Et d'autre part, quand on les met dans ces unités traditionnelles, qui va en assurer la surveillance ? Les membres de l'administration pénitentiaire n'en ont pas les moyens. Les policiers et gendarmes, quand on les écoute, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'ils veulent justement être déchargés de toute une série de missions, parmi lesquelles les missions de surveillance de certains bâtiments à l'égard statique. Alors, qu'est-ce qui reste ? La sécurité privée ? On va demander aux agences régionales de santé de financer des agents de sécurité privée. Elles n'ont aucun moyen. Donc, ce n'est pas pour aller payer des agents de sécurité privée qu'elle ne pourrait de toute façon pas financer. Donc on est un peu dans une impasse. Et ensuite, bah oui, il peut y avoir des risques qui sont des drames.
Alors il y a les UMD, hein, vous avez parlé Guillaume des UMD, les unités pour malades difficiles, il y a aussi les UHSA, hein, ce sont les unités hospitalières spécialement aménagées dont on dit qu'on ne s'enfuit pas, hein, qu'on ne fugue pas, je ne sais pas si c'est vrai, mais est-ce que vous avez, vous madame, parfois des cas comme ceux que, dont on parle, les quatre là, des gens qui ont violé, des gens qui ont tué, des gens qui ont... Vous avez des gens comme ça ?
Alors, peut-être quand même en préalable, moi je ne suis pas la médecin ni la soignante d'aucun de ces quatre patients, donc ce n'est pas ouais. moi.
Mais est-ce que vous avez des cas
nous,
comme ça ?
Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qu'allons aller dire, de Purpan, oui, mais ce n'était pas moi, sa soignante, qu'allons aller dire s'ils avaient leur place ou pas à l'hôpital. Je pense que ça, c'est la première chose, c'est une décision médicale.
Est-ce que vous, vous en avez ?
Attendez, je termine là-dessus, parce que je trouve que là, aujourd'hui, on stigmatise quand même beaucoup. Oui, il y avait un violeur dans ces patients-là. Enfin, des violeurs dans la rue, il y en a beaucoup. On rappelle que seulement 1% des personnes qui violent sont condamnées en justice. Donc, et là, on s'affole un peu moins. Là, on désigne, là, on stigmatise, alors que les féminicides, il y en a plus de 100 par an. Donc, des assassins qui avaient des plaintes pourtant contre eux, il y en a aussi beaucoup dans la rue. Donc, des patients, oui, qui sont passés à l'acte, oui, il y en a qui sont hospitalisés dans les unités psychiatriques, tout à fait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à stigmatiser quelques individus ou à stigmatiser des soignants
pour les laisser s'échapper. On cherche sereinement à comprendre... Le danger potentiel et même le danger pour vous.
Mais vous savez, vous avez beaucoup plus de danger pour votre propre santé au vu de la situation à l'hôpital. Au vu de la situation à l'hôpital, qui est programmée des dizaines de milliers d'interventions.
Pour vous,
il
n'y a pas
de place. Mais bien sûr que s'il y a un souci, je le disais, il n'y a pas de moyens pour la psychiatrie. Alors moi, je ne pense pas qu'il faut forcément ouvrir des lits, mais il faut donner des moyens.
Je rappelle qu'à Toulouse, une infirmière a été décapitée par un garçon qui s'appelle Romain Dupuis, une aide-soignante a été tuée par ce même garçon qui s'appelle Romain Dupuis, c'était des gens qui faisaient votre métier.
Tout à fait. Et je vous signale que là, à l'hôpital Marchand, toutes les unités ont été fermées ce week-end. Ça veut dire qu'on enferme les patients sans moyens humains supplémentaires pour passer du temps avec eux. Et après, des agressions de soignants, bah oui, effectivement, il y en aura parce que l'enfermement, c'est une décision à prendre en dernier recours et qui nécessite des moyens humains pour prendre du temps avec les patients pour que justement, ils ne passent pas à l'acte. Et malheureusement, aujourd'hui, ceux qui demandent des comptes, hein, comme le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, ou l'ARS, sont ceux-là même qui sont responsables de la situation de crise à l'hôpital en général.
Nicolas Franck, une dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que ça illustre aussi la difficulté d'équilibrer des patients et de savoir à quel moment il faut les mettre sous très haute surveillance ou pas ?
Non, je crois que la question n'est pas là. La question, c'est effectivement le mélange des genres. La question, c'est celle de la stigmatisation également. Là, on voit bien dans ce qui est dit que le risque, ce serait d'enfermer tout le monde pour protéger la société de quelques individus qui ne devraient pas être mélangés dans un hôpital qui est là pour vraiment soigner les autres. Donc la question, c'est de créer des dispositifs qui sont adaptés à ces personnes qui sont dangereuses et qui ne devraient pas sortir, pas pour des questions psychiatriques, mais pour des questions de dangerosité en termes de personnalité et de comportement.
Merci beaucoup, merci à vous trois d'être sur le plateau d'Affaires Suivantes, nous éclairer évidemment sur ces questions qui passionnent et qui nous ont intéressés toute la semaine et qui continueront à le faire. Vous restez avec nous dans un instant, nous reviendrons sur cette macabre découverte cette semaine par les policiers de Seine-et-Marne. Un enfant de 10 ans, tué de plusieurs coups de couteau, enfermé dans une valise et jeté dans une benne à gravats. La mère du petit garçon est aujourd'hui au tribunal de Meaux après 48 heures de garde à vue. Alors que sait-on précisément de cette enquête ? Comment vont travailler les policiers ? Comment une mère peut-elle s'en prendre à ce point à son propre enfant ? Les informations, le décryptage, on vous dit tout dans un instant. À tout de suite. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires Suivantes, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité police, justice. Et c'est un drame à peine concevable qui s'est joué cette semaine. Jeudi, à la mi-journée, après l'alerte donnée par un père de famille, les policiers retrouvaient dans une benne à gravats, dans une valise tachée de sang, un petit garçon de 10 ans, blessé de plusieurs coups de couteau. La mère a fui, elle a finalement été retrouvée, elle fait figure de principale suspecte. Elle est en ce moment même au tribunal de Meaux, entendue par un juge. Alors comment une mère peut-elle en arriver à une telle extrémité ? L'enquête, les hypothèses, tous les détails dans un instant, avec Dominique, avec nos invités. Mais d'abord, les tout derniers éléments de cette affaire, avec Marine Scherrer.
C'est derrière les murs de ce pavillon que l'horreur s'est produite. Un enfant de 10 ans, tué à l'arme blanche, dont le corps, caché dans une valise, est abandonné dans une benne à gravier. Mercredi soir, vers 19h, à Ferrières-en-Brie, le père du garçon signale à la police la disparition inquiétante de sa femme de 33 ans et de leur fils, tous les deux absents du domicile lorsqu'il est rentré du travail. Sur place, les enquêteurs découvrent des taches de sang. Rapidement, un important dispositif de recherche est mis en place. Une centaine de policiers mobilisés, mais aussi des pompiers, des brigades canines et une dizaine de drones.
En emmenant les enfants à l'école, j'ai vu pas mal de forces de police. Ça s'est vraiment activé, vraiment impressionnant.
En début de matinée, le corps du petit garçon est découvert à une centaine de mètres de la maison familiale.
Il présentait plusieurs lésions graves, très vraisemblablement provoquées par une arme blanche.
L'enquête se poursuit. Du chef d'homicide volontaire sur mineur de 15 ans, la mère du garçon est considérée comme la principale suspecte. En fuite, elle est aperçue sur des images de vidéosurveillance dans le RER mercredi soir. Elle se présente ensuite à Choisy-le-Roi, chez des membres de sa famille. Ce sont eux qui contactent la police. Lors de son interpellation, la femme n'oppose aucune résistance. Connue pour être fragile psychologiquement, elle refusait de se faire soigner.
Affaire terrible, évidemment, toujours évolutive, puisque je vous le disais, la mère est en ce moment même au tribunal de Mont. On va vous donner les toutes dernières informations et puis on va essayer de comprendre. Avec nos invités, Maxime Brandstetter, bonjour, journaliste police justice à BFM TV. C'est vous qui suivez cette affaire depuis le début. À vos côtés, le général François Daouze, bonjour, merci d'être là. Vous êtes ancien directeur du pôle judiciaire de la gendarmerie, professeur de sciences criminelles aujourd'hui à l'université de Cergy-Pontoise. Et Pascal Neveu, bonjour, psychanalyste, directeur de l'Institut français de la psychanalyse active. Cette affaire, elle nous laisse effectivement un peu sans voix. Peut-être d'abord faire un point factuel. Elle est en ce moment même au tribunal. Qu'est-ce qui va se passer pour cette mère qui, pour l'instant, est présumée innocente?
Mais elle va être entendue par le juge d'instruction dès qu'il pourra la voir. Il va lui poser des questions, peut-être la mettre en examen pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans, essayer de comprendre ce qui a pu se passer, si c'est bien elle qui a tué cet enfant de plusieurs coups de couteau, si c'est bien elle qui a essayé de faire disparaître le corps en le mettant dans une valise à roulettes et en le jetant dans une benne à gravats à une centaine de mètres du domicile. Voilà, il va essayer de comprendre, ce sera un entretien de première comparution.
Général, il y a eu donc l'arrestation, cette femme a été retrouvée après avoir fui, début de la garde à vue prolongée. Est-ce que ça nous dit quelque chose sur la manière dont elle se comporte avec ceux qui lui posent des questions?
Pas forcément. Ce que ça veut dire, c'est que les enquêteurs veulent arriver auprès du juge d'instruction déjà avec un certain nombre de réponses. Et des réponses qui iront dans un sens ou dans l'autre, ça on le verra à la fin, mais qui permettent de fermer immédiatement des portes et voir si elle est impliquée et jusqu'à quel niveau de son implication.
Alors justement, Dominique, vous aussi, vous suivez ce dossier depuis le début et vous avez des informations sur justement la manière dont se sont déroulées ces heures de garde à vue.
Absolument. Hein, donc, selon sa famille, on sait que c'est... Donc, d'abord, elle n'a pas demandé d'avocat. Et ça, il faudra qu'on en reparle ensuite. Oui. Comment ça se passe quand elle arrive au tribunal, hein. Donc selon sa famille, c'est une femme qui n'allait pas bien depuis 10 ans, depuis la naissance de son fils. Elle avait des problèmes avérés, mais elle n'était pas suivie psychologiquement. Soit elle n'avait pas souhaité le faire, soit bon. En tout cas, elle n'était pas suivie psychologiquement. Sur ce qu'elle a pu dire pendant sa garde à vue, elle a parlé d'une absence, d'un trou de mémoire s'agissant du moment des faits. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas des aveux, bien évidemment, donc, si elle évoque ce trou de mémoire. Mais les éléments recueillis lors de l'enquête sont à charge et accablants. C'est les informations dont on dispose à BFM TV qu'on peut vous donner aujourd'hui.
On va essayer de comprendre tout ça, mais peut-être ces mots qui sont importants, Dominique, et que vous nous révélez, elle parle d'absence, de trous de mémoire. Comment on peut le comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire déjà?
Alors ça va être un grand questionnement psychologique. Il y aura des expertises de toute façon qui vont être diligentées. Savoir s'il y avait altération ou abolition du discernement. Savoir si elle pourra comparaître lors d'audience.
Réexpliquez-nous peut-être ce que c'est.
Alors l'altération, c'est lorsqu'à un moment donné, vous avez une sorte de psychose blanche ou un trou noir, effectivement, dans votre emploi du temps. Vous ne savez absolument pas ce qui s'est passé. Vous vous réveillez après coup. Passage à l'acte ou pas, abolition complète du discernement, c'est que vous n'êtes pas dans une capacité psychique et psychiatrique à pouvoir être jugé parce que vous êtes atteint d'une psychopathologie.
J'ai envie de vous dire, comment est-ce qu'on peut croire un truc pareil? Cette mère
aurait,
on parle au conditionnel, poignardé son fils, il est poignardé à l'abdomen, poignardé au cou, il a tenté de se défendre, il a des traces de lésions de défense sur les bras, elle l'enferme dans une valise, si c'est elle, elle transporte la valise jusqu'à un conteneur à Gravat. Comment est-ce qu'on peut imaginer que pendant tout ce temps-là, ça peut être une zone blanche, c'est ça?
C'est totalement exact. Ça existe dans des cas de psychiatrie, dans des cas de.
J'ai du mal à le croire, mais bon.
J'entends bien. Ensuite, ça peut être une ligne de défense, hein. D'accord. Ça appartiendra de façon à la justice de trancher, sans jeu de mots. Mais ce qui est assez intéressant également, c'est de savoir qu'elle refusait des soins psychologiques ou psychiatriques depuis une dizaine d'années, depuis qu'il y a la naissance de cet enfant. Et on sait que beaucoup d'infanticides, ou en tout cas de ce qu'on appelle la naissance, criminalité également a lieu dans les premiers mois. On a 70 enfants en moyenne par an qui sont tués par leurs parents. On a beaucoup plus de cas comme cela. Cet été encore, un beau-père a tué son beau-fils à coup de marteau et également sa compagne. On a eu un autre cas au mois de janvier l'année passée où le père de famille, suite à un cas de séparation également, a emprisonné son enfant, l'a attaché, l'a emmené dans un local aux poubelles et l'a tué par balle. Donc c'est pas si rare que cela. C'est un enfant qui décède tous les 4-5 jours en France. Malheureusement, il nous faut trouver des explications psychologiques et comprendre pourquoi on en arrive là. Cette mère, peut-être qu'elle était fragilisée parce que épuisée dans sa fonction de mère, c'est-à-dire qu'elle n'existe plus qu'à travers cet enfant. Il y a également eu toute la grossesse, la séparation avec cet enfant. Il peut y avoir la séparation dans ce couple. Ce couple, effectivement, était en épreuve de séparation. Et rappelons-nous également le mythe de Médée. Médée tue ses enfants le jour où Jason, qui lui a donné plusieurs enfants, va se remarier. Ça existe depuis des années. C'est un mythe, mais les mythes font partie d'une réalité dans notre quotidien.
Maxime, justement, qu'est-ce qu'on sait de cette famille ?
On sait, comme on l'a dit, qu'ils étaient effectivement en instance de séparation, qu'elle, comme on l'a expliqué, elle n'allait pas bien depuis la naissance de cet enfant et que le père est parti au travail ce jour-là, mercredi dernier, et quand il revient, il ne retrouve plus sa femme et son enfant, qu'il sait fragile psychologiquement. Il appelle la police, il s'inquiète immédiatement car il y a des traces de sang dans l'appartement et se fait aider, se fait soutenir par sa famille, se fait aider psychologiquement jusqu'à ce qu'on retrouve l'enfant, puis le lendemain, la mère.
Ils étaient à une étape de leur vie, ils venaient d'aménager dans ce pavillon, c'était il y a quelques semaines avant.
Oui, ils venaient d'emménager, c'est un pavillon relativement neuf où il n'y a pas encore de vie de quartier, les gens ne se connaissent pas forcément, et eux, ils venaient d'arriver là, ils s'installaient pour leur vie avec cet enfant dans un contexte, encore une fois, difficile entre eux.
Général, des affaires douloureuses, terribles, vous en avez connu bon nombre. Quand on est face à une affaire comme ça, comment, quand on est enquêteur, on la traite? Comment on interroge cette femme? Comment on gère?
Alors, c'est compliqué psychologiquement pour les enquêteurs. Il y a ceux qui vont s'identifier au père de l'enfant et qui imaginent la douleur que la perte de l'enfant dans un drame qui peut être familial peut générer. Et il y a certains enquêteurs qui vont refuser de travailler sur le dossier. Et on va choisir des enquêteurs qui, à la fois, seront en empathie avec la mère, avec les personnes qui vont devoir être interrogées, mais qui ne vont pas se laisser déborder par leurs propres sentiments. Et il faut pouvoir l'écouter, il faut pouvoir l'entendre, il faut pouvoir lui poser les bonnes questions et recueillir sa vérité. Et cette vérité, la mettre en perspective avec toutes les traces matérielles qui vont être retrouvées. Parce que qu'elle ait eu un blanc ou qu'elle n'ait pas eu de blanc, la façon dont on va se découper les éléments matériels viendront confirmer une anarchie d'action qui peut être expliquée par un blanc ou un noir, comme elle a dit, ou au contraire, quelque chose en ras-le-bol, maintenant c'est construit, je me débarrasse de l'enfant et voilà comment je fais. Certes, les traces vont aider aussi les enquêteurs à comprendre ce qui s'est passé et qu'est-ce que c'est qui a pu être, peut-être, on ne sait pas, le déclencheur, pourquoi ce jour-là, à ce moment.
Parce que même si les éléments, Dominique, vous nous disiez, sont accablants, on est bien d'accord que les enquêteurs iront jusqu'au bout. Ils retraceront l'intégralité pour tout savoir dans les moindres détails. On ne se dit pas c'est elle ou elle a fini par avouer. On va au bout.
On va au bout et les éléments matériels vont venir appuyer une des hypothèses qui seront présentées. Et à partir de là, on ne laisse aucune porte ouverte. On les fermera les unes derrière les autres pour que la justice avance ou la médecine avance en fonction de l'état de la personne, si c'est elle.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne nettoie pas les traces de sang au domicile. Alors pourquoi le choix de la valise? Vous savez, un enfant de 10 ans, bah, faut le transporter, roulette, etc. Mais c'est une valise, alors symboliquement, sur un plan psychanalytique, on peut s'imaginer que ça représente également une forme d'utérus. Mais elle le place également dans une benne, pas à ordure, mais à gravat. Donc, qu'est-ce qui se dit également symboliquement? Est-ce qu'elle était totalement consciente, semi-consciente, etc. Ça, ça va être le travail de tous les experts psychologues et psychiatriques.
C'est effectivement... ça qui interpelle, Dominique disait, on a du mal à croire au trou noir. En tout cas, ça nous interpelle. Il ne s'agit pas d'y croire ou pas, ça nous choque, en fait. Elle le tue, mais effectivement, il y a toutes les étapes suivantes. Ça veut dire qu'elle le met dans cette valise, elle l'emmène dans cette benne. Enfin, ce processus-là, est-ce qu'on peut le comprendre, est-ce qu'on peut l'expliquer?
Elle se sauve. Et elle s'enfuit.
Elle aurait pu mettre cet enfant également dans une voiture. Je ne sais pas s'il y avait un véhicule à proximité, etc. Bon, ensuite, il y a du sang, etc. Mais elle le déplace à 100 mètres du domicile, ce qui est quand même très proche. Donc, il y a beaucoup de choses très questionnantes et que les enquêteurs vont mettre en lumière.
Mais elle redevient lucide à un moment, puisqu'elle s'enfuit, elle va prendre le train. On la voit, vous avez dit, Maxime, sur le quai de la gare, c'est ça?
Exactement.
Qu'est-ce qu'elle fait ensuite?
Déjà, précisons qu'elle part aussi sans ses affaires, selon nos informations, ce qui est aussi une information importante, parce que quand on prépare une cavale, on prépare des affaires, on prend de l'argent, etc. Donc, visiblement, elle part sans ses affaires. Si c'est elle a déposé cet enfant dans cette benne à gravats, et elle est allée dans un autre département, puisqu'elle est en Val-de-Marne, se réfugier chez sa famille. Donc, ça dit aussi de peut-être l'impréparation ou au contraire la préparation de sa fuite.
Et une forme d'inconscience également, parce qu'il y a des caméras de surveillance.
Elle est
quelqu'un qui sera en cavale.
Ça, elle n'est pas en cavale.
Le train.
Et c'est sa famille qui va alerter. Hein.
D'après ce qu'on sait, oui, c'est sa famille qui aurait alerté la police. Ouais.
Est-ce que, si on sort de cette affaire stricto sensu, il y a d'autres cas où on arrive à comprendre comment une mère peut en arriver là?
Alors, il y a trois possibilités. Soit on est dans le registre de la psychiatrie, c'est-à-dire que y a un coup de folie qui opère, l'enfant peut prendre trop de place, peut-être privilégié, enfin préféré par le père et non pas la mère, etc. Donc il y a une sorte de compétition. Il y a l'histoire de la séparation. Comme je le disais, bien, je conserve mon enfant avec moi, je fais payer l'autre et je tue l'enfant, et voire même je me suicide. Dans la majorité des cas, ces parents-là se suicident. Et puis, il peut y avoir une possibilité de cette forme d'épuisement. Je n'ai plus de vie, je me suis consacré à cet enfant, il m'épuise, il me tue, donc je vais le tuer.
Une femme dans les Hauts-de-Seine, au Plessis-Robinson, il y a une dizaine d'années, a tué ses deux enfants. Oui. Et c'est un milieu social assez élevé, a tué ses deux enfants. Elle a tenté de se tuer. Elle a survécu, elle a ensuite été condamnée aux assises, elle a comparu aux assises pour les meurtres de ses enfants. Comment ça se passe un procès d'assises comme ça?
Ah mais c'est d'une violence extrême d'ailleurs pour les jurés, hein, vous imaginez, et c'est ce que disait le général également, on s'identifie forcément en un parent, et puis c'est quand même un des crimes les plus abominables que celui d'un enfant et d'un parent qui tue son propre enfant, et les mères qui disent bah, c'est l'enfant de ma chair également, donc on n'arrive jamais à comprendre ce genre de phénomène. Mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, relire le mythe de Médée, comment on en arrive à cette folie également. Mais on peut croire dans certaines choses, il y a le symbole, il y a un certain mysticisme également chez certains, ils sont d'origine cambodgienne, hein, si je ne me trompe pas, également. Donc il peut y avoir cette autre approche, hein, ce n'est pas du tout désobligeant par rapport aux Asiatiques. Mais en tout cas, l'enquête et puis les différents interrogatoires qui vont avoir lieu aujourd'hui vont peut-être permettre d'éclairer davantage les choses, je le souhaite en tout cas. Pour elle et pour le père, pour qu'il puisse se reconstruire. Et puis, j'imagine le choc également des voisins dans cette commune avec ses nouveaux habitants.
Et on en parlait, enfin, général, pardon, j'y reviens, mais est-ce qu'on met sur des dossiers comme ça, on ne sait pas qui a enquêté, qui l'a questionné, mais est-ce qu'on met des vieux enquêteurs rompus, où on ne met pas de femmes, j'imagine, on évite une maman? Mais en même temps, c'est une femme, pour la faire parler,
exactement.
C'est mieux d'avoir une femme. Mais est-ce qu'une femme, enfin pardon, hein, quand,
une mère.
Que tout le monde m'entend, les femmes sont souvent des mères ou des futures mamans, je veux dire, est-ce qu'on peut entendre des choses pareilles?
Il ne faut pas que l'enquêteur
comment
ou l'enquêtrice,
on sort les enquêteurs.
Voilà, il ne faut pas que l'enquêteur ou l'enquêtrice soit psychologiquement impacté par l'audition, en s'identifiant comme une maman ou comme un papa. Dire vraiment, s'ils arrivent à faire... Et ils se connaissent. Hein, un patron connaît son équipe et même l'équipe dira « ben moi, je préfère pas. Ce cas-là, je ne suis pas à l'aise, je préfère pas. » Et à partir de ce moment-là, ils pourront questionner. Ils ne seront pas dans le jugement. Attention, il ne faut pas être dans le jugement, il ne faut pas être dans le reproche, il ne faut pas être dans la violence parce que l'action, elle nous révolte tous. Donc, c'est vraiment une approche pour arriver la personne à dire sa vérité. vérité. Donc, on voit bien que les enquêteurs doivent être.
Je vais faire un raccourci. Je vais faire un raccourci, mais il est facile. Il est. Mais on comprend. Il y a 10 suicides de policiers depuis le début de l'année. Un gendarme qui s'est suicidé. Quand on voit des choses pareilles, je ne sais pas qui a ouvert cette valise, qui a découvert ce corps, qui travaille sur ce corps. Mais quand on rentre à la maison le soir. Comment ça se passe, quoi? Quand on est un policier, un gendarme, la police technique et scientifique, et quand vous rentrez chez vous,
la même question, est-ce que vous êtes préparé
à ça? Alors, il y a la préparation, mais il y a surtout, depuis quand même un certain nombre d'années, que ce soit police ou gendarmerie, une aide psychologique, justement, face à des images traumatisantes et des images de la mort qui sont répétées et répétitives. Et certaines, on peut faire 20, moi j'ai vu des milliers de cadavres, hélas, et on ne sait pas pourquoi, c'est le 1001e qui va être un déclencheur. Ah, moi je me souviens, il y en a un qui m'avait vraiment déstabilisé, où on retrouvait une maman avec son bébé dans les bras, qui était mort tous les deux. Et je venais d'être papa pour la troisième fois, et j'ai immédiatement pensé à ma petite fille. Donc là, j'ai dit non. Là, vous continuez sans moi. Et après, eh bien, on a un débriefing psychologique qui nous permet d'éviter de garder pour soi et à un moment de craquer aussi. Donc voilà, là-dessus, c'est vraiment une volonté des deux grandes forces régaliennes, police et gendarmerie, que de pouvoir aider ces enquêteurs et ces techniciens.
On voit à quel point ces affaires nous choquent tous, évidemment, nous interpellent tous. Elle est entendue par un juge. On saura d'ici ce soir son avenir.
Exactement, on saura d'ici ce soir, en tout cas, si elle est mise en examen. Peut-être on aura un des premiers aperçus sur savoir si elle est responsable ou pas pénalement, et ce sera le début de la suite judiciaire pour elle.
Merci beaucoup, merci à vous trois de venir sur le plateau d'Affaires Suivantes, nous éclairer sur cette affaire qu'on va continuer, évidemment, à suivre. Tout de suite, les invités de la semaine. Elle se faisait appeler la servante de Dieu, et pour cause, dans la nuit du 15 au 16 août 1996, à minuit 6 précisément, Éliane Deschamps balade en pleine forêt, a vu la Vierge Marie qui a pris l'habitude très régulière de lui rendre visite tous les 15 du mois à minuit 6. De quoi faire d'Éliane Deschamps évidemment une grande prêtresse, celle de la communauté qu'elle avait elle-même créée, Amour et Miséricorde, et bien sûr, pour la servir, il lui fallait des petites servantes, les petites servantes de Dieu, des personnes trompées sous l'emprise d'Éliane Deschamps. 9 d'entre elles se sont portées partie civile dans le procès d'Éliane Deschamps pour abus de faiblesse. Et c'est demain que la justice rendra sa décision. Alors voyante ou gourou, décryptage récit avec nos invités dans un instant, mais d'abord plongée dans cette communauté installée en plein cœur du Jura avec Marine Scherrer.
C'est dans cette forêt, près de Dijon, que le destin d'Éliane Deschamps aurait été scellé. Ici, qu'elle dit avoir vu la Vierge Marie dans la nuit du 15 au 16 août 1996. L'apparition lui aurait demandé de revenir tous les 15 mois, à minuit. Éliane Deschamps attire alors rapidement l'attention.
L'écart s'arrêtait en bas du lieu de la pseudo-apparition et on montait avec des bougies en chantant des chants chrétiens.
En 1999, Éliane Deschamps fonde un groupe de prière appelé « Amour et Miséricorde ». Celle que l'on surnomme désormais la petite servante ou encore la voyante rassemble autour d'elle des croyants venus de toute la France. Des personnes qui progressivement coupent toute relation avec leur famille.
Il a fallu les convaincre, c'est-à-dire un petit peu puis un autre petit peu, de manière à en arriver à annihiler tout libre arbitre et toute possibilité de se rebeller.
Alors la petite servante est-elle devenue un grand gourou? En 2008, un rapport interministériel pointe des comportements constitutifs de dérives sectaires. Amour et Miséricorde s'autodissout. En 2014, 20 ans après les premières plaintes, Éliane Deschamps est mise en examen, mais rejette les accusations.
Nous ne sommes pas une secte. Jamais je n'ai contraint qui que ce soit à faire quelque chose qu'il ne voulait pas.
Le procès d'Éliane Deschamps s'est tenu fin novembre. Le jugement sera prononcé demain.
Et à la veille de ce jugement, avec nous, Maître Rodolphe Bosselu. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris, avocat de deux parties civiles dans cette affaire, dont la fille d'Éliane Deschamps. Vous allez nous raconter évidemment son histoire. Avec nous également, Jérémy Demey. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant. Vous préparez un livre sur cette affaire que vous connaissez parfaitement, que vous suivez de longue date. Je ne sais pas si j'ai envie de commencer par ça, avant de rentrer dans le détail. Si vous écrivez un livre dessus, c'est qu'elle est vraiment fascinante, cette histoire.
Elle est fascinante à plus d'un titre. D'abord, ça fait 20 ans de procédure, ce qui est très rare. On pourra l'expliquer pourquoi il y a ces 20 ans de procédure. Ensuite, ça touche la dérive sectaire. Et la dérive sectaire est toujours passionnante puisque ça démontre comment les gens peuvent se faire manipuler, comment ils peuvent tomber dans un subterfuge au final. Et c'est assez intéressant. Et en plus, j'écris ce livre, je le co-écris en fait, avec une personne qui a été adepte avec sa mère et sa sœur, et qui ensuite en est sortie. Et donc ça va nous montrer toutes ses facettes. Et moi, en tant que journaliste, au début, quand elle en faisait partie, nous n'étions pas forcément de grands amis. Ensuite, il y a eu une explication, et bah, depuis maintenant, on a noué des liens plutôt amicaux, pour le coup. Et c'est tout ça qu'on va raconter. En plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans son histoire, sa maman avait divorcé de son papa en étant dans la secte, et en sortant, ils se sont retrouvés, ils se sont remariés. Donc c'est le happy end.
Une belle histoire. Et justement, on a envie de comprendre ce qui s'est passé dans cette secte, précisément. Maître, vous êtes l'avocat des aides de partie civile, dont la fille d'Éliane Deschamps, qui, je parle sous votre contrôle, a fait partie de cette communauté pendant 10 ans, avant d'en sortir. Qu'est-ce qu'elle a vécu ?
Elle a vécu une vie d'adepte, comme dans beaucoup de sectes, c'est-à-dire une vie où, en définitive, on perd son libre arbitre, son sens critique, et on est en adhésion totale avec le groupe. Et là, ce groupe avait cette spécificité d'attirer beaucoup de catholiques, croyants, pratiquants, en leur vendant, si vous me permettez l'expression un peu triviale, des apparitions. Et donc, sa mère était le vecteur de ces apparitions. Elle était la petite servante, celle qui avait le lien avec Dieu, la Vierge, Jésus, on ne sait pas trop. Mais le fait est qu'elle était véritablement l'intercessrice. Et elle avait de ce fait une omnipotence vis-à-vis de tous les gens qui participaient à...
Qu'est-ce qu'elle leur faisait vivre concrètement ?
Alors, il y avait d'abord une mise en scène de l'apparition elle-même. Alors, il faut savoir que ces apparitions avaient lieu tous les 15 du mois à 00h06.
Vous êtes sérieux ?
C'est très sérieux et c'est très pratique. Parce qu'on s'est rendu compte que, quel que soit après le cheminement du groupe, puisque le groupe a suscité un peu des oppositions et ils sont partis, la Vierge a suivi et elle est apparue, quel que soit l'endroit géographique, ce qui est vraiment un facteur là aussi de grande pratique. Et il y avait une mise en scène, une grande croix, comme les croix de Dozulé de 7 mètres, des lumières, des pétales de rose, la gourelle installée sur une chaise, en situation un petit peu supérieure aux autres. Et pendant le moment de l'apparition, elle semblait qu'elle voyait la Vierge et elle tenait des propos qui étaient après repris par l'ensemble du groupe, et qu'elle, et c'est là la grande astuce, personnalisée pour chacun. C'est-à-dire que ce que lui avait dit la Vierge était en lien direct avec les gens qui étaient autour d'elle. Et elle obtenait de chacune de ces personnes qu'elle se confesse, entre guillemets, qu'elle livre sa part d'intimité, sa part de fort intérieur, en leur faisant d'ailleurs avouer des choses qu'elle pouvait regretter. On a assisté à des scènes où certaines personnes disaient « Oui, Éliane, j'ai avorté. Oui, je m'en veux, j'ai avorté 2 fois, etc. » Et donc, petit à petit, l'emprise se crée comme ça.
Maître Jérémy, vous avez suivi le procès tous les deux. C'est quand même la justice s'entend, quoi. Quand on dit à un juge, un président de tribunal correctionnel, cette dame, elle rencontrait la Sainte Vierge ou elle entendait la Sainte Vierge tous les 15 jours, peu de croyants, hein, et pas avaler ce genre de truc. La justice, elle dit, mais oui, vous avez raison, et on prend la gourelle et on la condamne. Ça a l'air d'être un dossier facile, non ?
Alors, le problème, c'est que non. C'est un dossier facile et pas facile, parce que facile
dans
les
faits... Est-ce que la justice vous a entendu ?
Mais j'espère, nous le saurons demain, mais c'est toujours le problème avec les dérives sectaires, c'est que c'est l'appréhension par l'institution judiciaire d'un phénomène qui est le phénomène de la manipulation mentale. Et cette manipulation mentale, c'est vrai que c'est toujours des éléments un petit peu difficiles à appréhender.
C'est pas comme, tangible.
Si vous voulez, c'est pas des traces objectives comme on peut l'avoir dans un crime de sang ou des éléments qui sont totalement imparables.
D'autant qu'on a affaire à des adultes. Voilà. Les adultes peuvent avoir leur libre arbitre. Un enfant a complètement le droit de dire, une fois qu'il est majeur, je ne veux plus parler à mes parents pour tout un tas d'histoires. Or, la rupture familiale, c'est un des critères qui pourrait définir les sectes. Et là, le procès a été assez étonnant. On a entendu certaines choses assez étonnantes. Alors, des deux parties, ce qui est normal, c'est le principe du procès. Mais il y avait un procureur qui, au moment de son réquisitoire, au lieu d'expliquer ce que vous venez de dire, Dominique, Lui, il a expliqué qu'en fait, on avait l'impression d'être un procès canonique. Il expliquait non, c'est impossible que vous ayez pu voir la Vierge, car la Vierge n'apparaît que devant des gens innocents. Or, vous n'êtes pas innocent. C'est
moi qui suis surréaliste. Laïque, c'est surréaliste.
C'est surréaliste et c'est surtout complètement.
Ça se passait à Dijon.
Ça se passait à Dijon.
Et je voudrais pour qu'on comprenne bien, pardon, vous nous avez expliqué le mécanisme de ces apparitions et de ce qu'elles disaient. Je voudrais qu'on revienne concrètement à ce que vivaient les personnes à l'intérieur. On parle de privation de nourriture, d'obligation. Comment ça se passait?
C'était de l'emprise. C'est-à-dire que si les personnes ne le faisaient pas, ne répondaient pas aux ordres ou aux commandements de la gourelle, c'était pas à elle qui désobéissait. C'était directement à ceux dont elle entendait les voix. Moi, de mémoire, elle voyait tout le monde, sauf Jean-Paul II et Joseph. Mais sinon, elle les voyait tous. Pourquoi pas? La seule fois où j'ai pu lui parler, je lui ai demandé comment elle faisait techniquement quand on passait d'horaire d'été à horaire d'hiver, puisqu'elle les voit à minuit 6. Bon, c'était évidemment
un peu provocant,
mais je n'ai toujours pas eu la réponse. Mais il y avait vraiment ce système d'emprise, ce système de victimisation inversée au final. C'est tous les témoignages que j'ai pu recueillir, en tout cas des anciens adeptes, et c'est ça qui était très fort.
De la vie quotidienne que vous racontez, Eliane Deschamps et l'autre partie civile, comment c'était?
Mais en fait, si vous voulez, c'est une coupure qui s'instaure avec le monde d'avant. C'est-à-dire, on pourrait imaginer qu'on a une conviction religieuse. Pour autant, elle n'a pas vocation à vous priver de la vie que vous avez avec vos proches, etc. Tout ça peut cohabiter. Eh bien, dans la dérive sectaire, jamais. La gourelle veut un pouvoir absolu sur les gens. Elle ne veut pas le partager avec la vie d'avant, les parents, les amis. Et c'est ça qui est fascinant. Ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'il y a des gens qui, tout à trac, abandonnent tout, leur métier, leur famille, qui est soudain diabolisé, démonisé, leurs amis, leurs proches, pour se concentrer à 100% et devenir l'esclave, je dis bien l'esclave au quotidien d'Eliane Deschamps. Donc c'est là qu'on se dit que l'emprise fonctionne à 100%.
Maître Bouchely, vous avez parmi vos clientes une dame dont le fils a 45 ans, elle s'appelle Marie-France, le fils a 45 ans. C'est une grande famille, dans la famille il y a un général d'armée, il y a des avocats, c'est vraiment une grande famille de l'aristocratie, voilà. Et il y a un garçon de 45 ans qui est là-bas depuis une quinzaine d'années.
20 ans.
Tous ses cousins sont venus le voir en voiture un jour en délégation, donc avec leurs enfants pour essayer de lui parler, et n'ont pas réussi, même pas, à le voir.
Mais qu'est-ce qui
se passe dans la tête de ces gens ?
Ce qui est absolument formidable au sens de l'observation qu'on peut avoir extérieure, évidemment je ne dis pas ça pour sa mère qui est ravagée par cette situation, hein. Mais
ravagée
c'est
de chagrin.
Que, avant de voir ses cousins qui faisaient irruption pour lui fêter son anniversaire, il faut qu'il demande l'avis de la gourelle. Et ça, comment on le sait? On le sait parce qu'il y avait des gens dans le groupe à l'époque qui sont sortis depuis et qui avaient rempli un cahier au quotidien de ce qu'ils vivaient. Et on voit que ce jeune homme va voir Eliane pour lui dire « Ma mère est là, c'est mon anniversaire, il est tremblant, il est confus. » Enfin, sa mère vient lui souhaiter son anniversaire, c'est quelque chose d'absolument normal. Et il va demander l'autorisation. Elle lui donne l'autorisation. Il y va, mais elle la reprend, l'autorisation. Et quand elle voit que la famille commence à s'installer, à échanger, elle lui dit subitement, et elle lui fait dire par une autre personne, qu'il faut qu'il stoppe immédiatement. Et lui, alors qu'il avait prévu d'aller au restaurant, etc., dit « Bon, ben là, il faut que je reparte, j'ai des choses à faire. » Strictement.
Quand on vous entend, on se fait un portrait, une image d'Eliane Deschamps. Vous l'avez vu au procès, vous l'avez rencontré, même brièvement, c'est ce que vous nous disiez. On voit sa photo. Est-ce que c'est une femme qui a un charisme fou quand on la voit là? Alors évidemment, elle était plus jeune au début de son mouvement, mais est-ce que c'est une femme qui a un charisme incroyable?
Au moment du procès, on ne peut pas dire que son charisme était resplendissant. Elle est arrivée en fauteuil roulant, avec une casquette qu'elle a gardée tout le long du procès. La casquette, c'est juste une petite anecdote que je trouvais un peu personnelle, car moi aussi, je porte une casquette. Et à un moment donné, pendant une pause, quand je reviens, j'avais la casquette. Le procureur me dit « Ah non, monsieur, il faut enlever la casquette. » Très bien, mais il faut aussi lui faire enlever. Après tout, nous sommes dans une institution républicaine, il y a l'égalité. Il ne lui a pas demandé d'enlever sa casquette, et moi, il me l'a imposée. C'est juste un petit détail. Mais elle avait aussi sa bouteille d'oxygène pendant le procès. Ça faisait un décorum très lourd. Victimaire, très lourd. Pour l'anecdote, j'ai regardé le petit manomètre tout le long du procès, il n'a pas bougé pendant 2 jours.
Mais elle est bizarre, cette justice dijonnaise, non? Il n'est pas bizarre, ce président de tribunal? On peut le dire, on dit ce qu'on veut. On est chez nous, on est à BFM TV.
Oui, oui, oui.
Il n'est pas bizarre, non?
C'est une ambiance étrange. Dijon, c'est une ville où il y a beaucoup d'entre-soi. Ça, il faut le dire aussi. Peut-être que ça explique aussi les 20 ans de procédure. Faut savoir que le premier procureur qui était en charge de ce dossier avait des liens d'amitié ou de proximité, en tout cas avec Mgr Minrat, en dehors de la justice. Hasard de calendrier, on va rester prudent. Tout le long où c'est lui qui avait en charge l'instruction de ce dossier, le dossier n'a pas avancé.
On est effectivement dans un dossier étrange, en ce sens que la durée de la procédure interroge. Or, les premières plaintes, les premières apparitions, c'est 96. Les premières plaintes, c'est 2002. Et on a eu toute une phase d'inertie dans ce dossier, totalement inexpliquée, avec des dénonciations au sein même de l'Église que l'évêque de l'époque, Mgr Minrat, a cru bon de vouloir ignorer volontairement.
Et on verra demain ce que décide la justice. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Affaires Suivantes. Merci. À nous parler de cette affaire. On vous souhaite un bon dimanche évidemment sur BFM TV. Dominique, on se retrouve la semaine prochaine, 13h, pour un nouveau numéro d'Affaires Suivantes. Bon dimanche.